Regard sur le Grand Victoria est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, seul organisme mandaté pour soutenir financièrement les radios communautaires et de campus du pays. Regard sur le Grand Victoria. Votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité municipale. À retrouver tous les mercredis à midi et en rediffusion le samedi à 10h sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM. Mais aussi en balado sur radiovictoria.ca.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 22 juillet, vous écoutez bien Radio Victoria et c'est François Macon au micro pour vous accompagner tout au long de cette émission de regard sur le Grand Victoria, la 17e, que je suis encore une fois ravi de passer en votre compagnie. Cette semaine, une émission spéciale consacrée à la thématique du racisme systémique. Une émission que nous avons préparée à la faveur d'un sujet d'actualité, puisque la semaine dernière, jeudi précisément, en conseil municipal de Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique, a adopté à l'unanimité une motion visant à désormais interdire les contrôles d'identité de rue inopinés. Nous allons évidemment revenir sur cette motion, sur ce qu'elle contient, sur la réalité des contrôles de rue à Victoria et au Canada plus largement. Et nous recevrons en deuxième partie d'émission le professeur Boulou Ebanda Deberi, qui est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa. Il nous a accordé une longue et fort intéressante entrevue, que je vous invite donc à retrouver en deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, je vous propose de commencer avec ce qu'il s'est donc passé ce jeudi en conseil municipal concernant la fin des contrôles de rue. Je vous le disais donc, le conseil municipal de Victoria a adopté à l'unanimité ce jeudi une résolution visant à mettre fin au contrôle de rue inopiné par les services de police, par VicPD, ainsi qu'à la pratique du carding. Pratique légale, mais entourée par un cadre juridique flou, ces méthodes sont aujourd'hui dénoncées comme participant au profilage racial et à l'aggravation du racisme systémique. Alors pour reprendre la chronologie, tout a débuté en début de semaine dernière, avec une lettre co-signée par 73 organisations, dont l'Association de défense des libertés civiles de la Colombie-Britannique, qui appelait les différents niveaux de gouvernement à prendre des mesures immédiates pour lutter contre la discrimination systémique dans les services de police, en mettant fin notamment à tous les contrôles de rue. Alors jeudi, les conseillers municipaux, 4 précisément, Jérémy Loveday, Sarah Potts, Ben Izit et Monsieur Dubow, ont repris en préambule cette déclaration dans leur motion, indiquant que les contrôles de rue et le profilage par la pratique du carding, nous allons voir ensemble tous ces termes, sont contraires aux priorités, aux buts et aux objectifs de la ville de Victoria. Alors justement, qu'est-ce qu'un contrôle de rue ? Eh bien, c'est un contrôle policier de routine qui consiste à aborder un citoyen dans la rue ou dans un véhicule pour vérifier son identité ou l'interroger, même lorsque le policier instigateur de cette interaction n'enquête sur aucun délit en particulier. Et ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Le carding ou le profilage intervient lorsqu'un agent demande au hasard à quelqu'un de fournir des informations d'identification lorsqu'il n'y a pas d'activité suspecte. Des informations concernant son âge, son sexe, sa profession, mais aussi et surtout son origine ethnique. Dans les deux cas, les informations d'identification sont stockées dans une base de données de la police où elles pourront être consultées à l'avenir. Cette mesure est souvent décriée comme un exemple de profilage racial, discriminante, et comme une forme de harcèlement à l'endroit des citoyens issus des communautés minoritaires. Alors en effet, si on se penche sur les chiffres, une brève analyse des données de vérification collectées par le département de police de Victoria entre 2007 et 2017 permet de constater que 9,9% des personnes incluses dans les rapports de vérification de rue de VicPD étaient des autochtones et 2,4% étaient des Noirs, alors que les autochtones et les Noirs représentent respectivement 5% et 1,4% des populations de Victoria et d'Esquimalt. En clair, ces groupes sont sujets à un pourcentage de contrôle de rue deux fois plus important que leur part respective de la population. Il est aussi important de souligner que le rapport a relevé plusieurs problèmes avec les données, notamment des incohérences parmi les agents sur ce qui constitue un contrôle de routine et le fait qu'environ 6% des enregistrements de vérification de routine, de contrôle de rue, ne comprenaient pas l'appartenance ethnique d'un individu. On peut donc légitimement penser que cette proportion de contrôle qui cible les minorités est plus élevée. Aussi, on note une confusion dans l'interprétation et la définition même d'un contrôle de rue selon les différents services de police. Un rapport de janvier 2020 du service de police de Victoria définit les contrôles de rue comme lorsqu'un agent de police mène de manière proactive un entretien sur le terrain ou une enquête avec un membre du public concernant une activité suspecte ou un crime présumé. Soit en définitive le contraire en substance de la définition qui est communément admise. Alors il faut savoir que les citoyens peuvent refuser de se soumettre à un contrôle de routine. Mais comme l'explique Timothée Stanley, professeur émérite à l'Institut de recherche et d'études autochtones pour l'Université d'Ottawa que j'ai reçu la semaine dernière, eh bien d'abord peu de gens le savent, et pour les rares qui font valoir leurs droits, cela conduit souvent à l'escalade. Alors la situation dégénère et alors l'officier de police procède à une interpellation et parfois même à une arrestation. Toujours selon le professeur Timothée Stanley, il faut que le législateur se penche rapidement sur ces questions pour éclaircir le flou du cadre juridique qui existe actuellement et redéfinir clairement les droits et les termes. Je vous le disais, nous allons recevoir dans quelques instants le professeur Boulou Ebanda de Berry avec qui nous allons parler de cette question de la suppression des contrôles de rue. Est-ce suffisant pour faire diminuer le racisme systémique au Canada? Évidemment, nous le poserons la question. Mais avant cela, je voulais vous donner un petit peu de contexte concernant des précédents et des évolutions récentes sur ce sujet au Canada, puisque l'exemple le plus significatif s'est sans doute produit à Halifax, où le chef de la police a présenté des excuses publiques en 2019 à la communauté noire pour les contrôles de rue qui étaient pratiqués jusqu'alors par les forces de l'ordre. Ces interventions qualifiées de contrôle de routine ciblent les Noirs six fois plus souvent que les Blancs, et le gouvernement provincial a ensuite ordonné en octobre de la même année l'interdiction des contrôles de rue dans l'ensemble de la province de la Nouvelle-Écosse. Plus près de nous, en janvier, le service de police de Vancouver a mis en place une nouvelle politique sur la façon dont ses agents effectuent désormais les vérifications de rue. Aujourd'hui, il est indiqué clairement qu'aucune personne ne peut être arrêtée au hasard ou uniquement en raison de sa race ou de son appartenance ethnique à Vancouver. Depuis, le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, veut aller encore plus loin et a annoncé qu'il déposait une motion pour mettre fin aux vérifications de rue dans la ville. Les données sur les contrôles de rue à Vancouver qui ont été compilées entre 2008 et 2017 suggèrent que 15% des personnes qui ont été questionnées au cours de cette période étaient autochtones, bien que les autochtones ne représentent que 2% de la population générale. De même, environ 4% des personnes profilées étaient noires, alors que cette communauté représente moins de 1% de la population de Vancouver. Le conseil municipal de Vancouver doit donc se pencher très bientôt, avant la fin du mois de juillet, sur une motion parfaitement identique, en tout point, à celle adoptée par Victoria jeudi dernier. Regard sur le Grand Victoria. Entretien. Et pour aller plus loin avec nous, le professeur Boulou Ebanda de Berry. Bonjour monsieur de Berry.
Bonjour, bonjour, comment allez-vous?
Plutôt bien, merci, merci d'être avec nous. Alors je rappelle que vous êtes professeur en communication à l'Université d'Ottawa et vous êtes avec nous pour aller beaucoup plus loin dans ce sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui nous préoccupe depuis très longtemps et encore, à mon avis, pour longtemps encore, mais qui est dans le cœur de l'actualité, celui du racisme systémique dans notre pays, au Canada. Est-ce que vous voulez bien, professeur, vous commencer par vous présenter succinctement pour nos auditeurs?
Ben écoutez, je suis professeur de communication, professeur titulaire au département de communication à l'Université d'Ottawa, à la capitale nationale du Canada donc. Et mes recherches portent sur les questions de la culture, de l'identité et de la représentation. En théorie, pour faire grosso modo, je m'intéresse beaucoup aux questions de la mémoire culturelle et des représentations culturelles. Donc, évidemment, si vous êtes tombé sur moi, c'est parce que mes travaux traitent de ces questions-là, de ces questions de représentation et de ces questions de représentation dans des systèmes, n'est-ce pas? Des systèmes de représentation. Voilà, alors, grosso modo, c'est ce que je fais. Je suis professeur depuis une quinzaine d'années, quand même, à l'Université d'Ottawa. Et Et voilà. Est-ce que vous voulez savoir d'où je viens? Comment je pense que vos auditeurs vont savoir tout de suite, ils vont aller chercher.
Peut-être pour commencer la discussion, je pense qu'il est important de rappeler peut-être des termes qu'on utilise comme ça à tort et à travers dans les médias. Est-ce que, professeur, vous pouvez nous donner votre définition et la définition qui est communément admise aujourd'hui de ce qu'on appelle le racisme systémique?
Alors, il faudra qu'on commence par le commencement. C'est quoi le racisme? Et maintenant, après cela, on pourra appliquer notre réponse du racisme à l'intérieur d'un système. Parce qu'évidemment, le binôme racisme systémique veut dire qu'il y a d'abord, d'une part, le racisme et d'autre part, un système qui soutient dans le premier. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est quoi le racisme? Le racisme, c'est cette façon, et on va y aller très court pour vos auditeurs, de dénigrer tout ce qui est autre. Tout ce qui n'est pas comme nous. Et naturellement, tout ce qui n'est pas comme nous sur le plan de la race. N'est-ce pas? Donc le racisme est cette façon de ne pas aimer, de dénigrer, de rejeter, de traiter de mauvais. Tout ce qui ne nous ressemble pas. Au niveau de la race, évidemment, c'est-à-dire au niveau de la couleur de la peau. Parce que ça, voyez-vous, le racisme, c'est basé sur la couleur de la peau. Et maintenant, le système, un système qui articule le racisme ou qui a des représentations raciales, c'est ce système-là à travers lequel ces représentations ne sont pas dites ouvertement, mais elles sont là. Par exemple, si je vous demande à vous et à tous vos auditeurs de fermer les yeux et de me dire qui est le Premier ministre du Canada, vous allez évidemment me dire qu'il y a un homme et il est blanc. Vous n'allez pas me dire qu'il y a une femme qui est noire. Et cette image-là ne viendra même jamais dans votre tête. Pourquoi elle ne viendra jamais dans votre tête? Parce que cette image de l'homme blanc, qui est Premier ministre du Canada depuis des centaines et des centaines d'années, est véritablement incrustée dans votre façon de penser le pouvoir au Canada. Donc le système de pouvoir au Canada, il est systématiquement articulé autour d'un homme, autour d'un homme qui est blanc. D'ailleurs, on a eu une petite histoire au Canada. Kim Campbell, qui a été première ministre au Canada, a été tellement pas à sa place dans la construction sociale du poste de premier ministre qu'elle n'a pas duré très longtemps. Voilà un exemple de système qui représente une position raciale particulière. Relativement au noir, le racisme systémique relativement au noir ou relativement à toutes les personnes qui ne sont pas blanches, telles que les Premières Nations, on le voit dans le système de justice, par exemple. Le système de justice est disproportionnellement, si on vous dit une femme sur six dans les prisons canadiennes est une Amérindienne, alors qu'ils ne représentent même pas 0,3% de la population canadienne. Ils doivent donc avoir un problème dans le système de justice qui pénalise particulièrement les femmes amérindiennes. Voilà, grosso modo, pour faire une brève définition de ce que j'appelle racisme et racisme systémique. Voilà.
Alors pourtant, le Canada se vante même parfois d'être un pays qui est un pays d'immigration, qui est un pays qui n'a pas de politique discriminatoire. Est-ce que ce n'est pas, à votre sens, oublier le récit fondateur des pays nord-américains, le Canada et les États-Unis en tête ?
Particulièrement, bien sûr, c'est une façon, parce que bon, de toutes les façons, on pouvait bien vous me parler ici, je vous parle dans un territoire non cédé des Anglo-Cœurs, Anishinaabe, qui sont un peuple qui a leur langue, qui a leur façon de penser, qui a leur philosophie, leur culture. Mais je vous parle en quoi? Je vous parle en français. Autrement dit, je vous parle dans une langue qui a conquis ce territoire. Mais il faudra donc, à ce moment-là, qu'on puisse, de un, reconnaître la conquête, de deux, reconnaître l'imposition de notre culture sur l'autre culture, et de trois, reconnaître que cette imposition-là est articulée sur une hiérarchisation des individus. Une hiérarchisation de la culture et une hiérarchisation de la race. Parce que qui parle de race parle de culture. Voilà, c'est exactement ainsi que ça se passe dans le récit fondateur, ce que vous appelez le grand récit fondateur. Il efface tout ce qui était avant. Hein? Il efface surtout, et il y a plusieurs types de récits fondateurs. Au Québec, on en a d'autres. En Ontario, on en a d'autres. Chez vous, en Colombie-Britannique, on en a d'autres. Ces récits fondateurs ont tendance très hérocentrique. Ils ont tendance à effacer tout ce qu'ils ont trouvé avant et à se dire fondateur. Ça, c'est un mythe, évidemment, nous le savons.
Les inégalités socio-économiques qui sont le controversant de ce racisme, pour les différentes minorités à travers le pays, il y a des réalités sur la difficulté de l'accès à l'emploi, à la santé, au logement. Quel est votre regard aujourd'hui sur ces inégalités socio-économiques qui contribuent à marginaliser ces populations?
Alors, on continue dans le versant du système. Je vais vous donner un exemple, je suis universitaire. On a un poste ouvert à l'intérieur duquel on prescrit ce qu'on s'attend à ce qu'une personne ait dans son CV pour qu'il ait l'occasion d'être retenu en entrevue, en plus l'occasion de présenter sa recherche, en plus l'occasion de pouvoir être parmi les derniers ou les dernières personnes retenues. C'est en général cela le processus. Alors, dites ainsi, on a l'impression de croire que c'est parfait, c'est parfaitement démocratique, parce que dans ce processus, nous allons voir que c'est le mérite qui compte. C'est comme si vous alliez à la banque pour qu'on vous donne le crédit, on va voir c'est quoi votre capacité d'emprunter. Mais comment juge-t-on de la capacité d'emprunter? C'est cette capacité qui dit, il gagne tel argent, il a tel nombre de cartes de crédit, il a toujours remboursé à temps, n'est-ce pas? Le système jusqu'ici, ça va très très bien. Le hic est celui-ci. Si on pose la question suivante, quels sont, dans le pool des individus dans notre nation, dans tout le pays, les individus capables de remplir les critères tels que définis dans l'appel, dans l'offre d'emploi, ou les critères tels que définis pour l'obtention d'un crédit dans une banque. On va se rendre compte que ces critères sont déjà très biaisés et défavorisent un pan entier de la population parce que ce pan entier de la population n'a évidemment pas accès à ce type de données. Elle n'a pas, si c'est un professeur, il n'a pas publié autant. Si c'est un qui sera un des critères de sélection pour pouvoir être parmi les critères de l'excellence. Si c'est une femme, encore une femme noire, elle n'aura pas publié autant parce qu'elle a aussi d'autres réalités intersectionnelles, donc qui vont encore la mettre très 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 loin en bas de la file, en bas de la pile des candidats. Donc du coup, le système en soi, il est bien fait, il est bien huilé pour maintenir les mêmes gens au-dessus. Alors, la question est la suivante, et si je comprends la sous-question qui est la vôtre, c'est comment on va démanteler.
Ça, effectivement, je veux qu'on en parle, bien sûr. Ça sera une longue partie de l'interview. On vient de parler des effets pervers du racisme systémique qui se reflète dans les inégalités socio-économiques, donc l'accès à l'emploi, la santé, le logement. On vient d'en parler. Il y a un autre volet duquel je veux parler avec vous, c'est le volet répressif, le volet policier. Puisqu'en fait, c'est à la faveur de cet événement d'actualité que j'ai voulu vous...
Qu'on en parle,
puisque à Victoria, la semaine dernière, alors on va en parler aussi, il y a des antécédents, mais à Victoria, les élus du conseil municipal se sont réunis et ont décidé d'ordonner immédiatement la fin des contrôles de rue, des contrôles de police de rue. Alors, il faut savoir qu'une brève analyse des données de vérification collectées par le département de police de Victoria entre 2007 et 2017 permet de constater que 9,9% des personnes, soit 10% des personnes qui sont incluses dans les rapports de vérification de rue, étaient des autochtones et 2,4% étaient des noirs, alors que les autochtones et les noirs représentent respectivement 5% et 1,4% de la population de Victoria. En clair, ces groupes sont sujets à un pourcentage de contrôle de rue deux fois plus important que leur part respectives de la population. Alors, je disais, il y a eu des précédents. D'abord, peut-être le plus significatif, c'est en Nouvelle-Écosse, puisque Halifax avait décidé d'abolir ces contrôles de rue, hein, que statistiquement sont prouvés comme aggravant bien la discrimination. Et puis, ça avait fait boule de neige, puisque la province entière de la Nouvelle-Écosse a décidé de les interdire. Et peut-être plus près de nous récemment, Vancouver va aller plus loin, puisqu'elle avait d'abord réformé en début du mois de juillet les modalités de ses contrôles de rue. Et puis là, elle veut carrément, le maire, Kennedy Stewart, a appelé à leur interdiction pure et simple, de manière définitive. Qu'est-ce que vous pensez justement de la fin de ces contrôles de rue? Effectivement, on voit qu'ils ciblaient les minorités noires et autochtones de manière très disproportionnée. Est-ce que c'est, selon vous, une étape suffisante ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin?
Oh, c'est juste une de multiples étapes à faire. Permettez-moi de retourner dans le ciblage, dans le ciblage racial, quand on est
le ciblage ou le profilage, oui, tout à fait. Vous avez
raison. Le profilage, puis c'est ciblé, hein. C'est on cible, on profile. Le profilage, c'est très gentil et très canadien. Moi, je dis ciblage parce que c'est ces individus dont vous parlez, qui sont faits de chair et de sang. Ils sont ciblés à l'intérieur par la police ou par le système de surveillance qui est le nôtre et dont on sait qu'ils suivaient particulièrement ces individus qui ne sont pas de la couleur locale. Voilà, donc ça peut être la police, ça peut être dans d'autres sphères comme dans des magasins quand on entre, mais c'est un système de surveillance, n'est-ce pas? Une surveillance systématique des individus qui ne ressemblent pas à la couleur dominante, qui sont donc effectivement racisés. Alors, ce ciblage tel que je le détermine est juste un début. Hein, l'arrêt de ce ciblage est juste un début. Ce n'est pas ça qui va arrêter le racisme dans le système. Parce que ce dont j'étais en train de vous expliquer un peu au départ, c'est que je vous donnais l'exemple d'un poste ouvert dans une université à l'intérieur duquel il y a des critères. Bon, devinons maintenant que c'est Boulou et Banda de Berry qui appliquent et qu'il a le même CV que François Fillion, qui lui aussi qui a le même CV, ils appliquent dans ce même poste. Dans le système, tellement mon nom sonne étranger, que le système va me discriminer, va m'écarter naturellement. Même si je prenais votre CV aujourd'hui et que je le représentais dans cet emploi-là. Donc je l'ai déjà entretenu plusieurs fois, nous le savons, nous avons des données, que un CV d'un nom qui sent européen et un CV d'un nom qui s'entend comme s'il était africain ou autre, a moins de chances de progresser à l'intérieur. Donc ce ciblage, encore, il n'est pas juste dans la race visuelle, il est aussi dans les noms, le nominatif, dans les signes qui nous permettent d'identifier un individu. C'est la même chose dans des banques. Même si j'arrive avec un bon crédit, mon dossier va passer par d'autres chemins, tout simplement parce que je porte un nom qui ne fait pas partie de la couleur locale. Voici, nous avons ces données, on a des tests, on le sait. Maintenant, ce que la ville de Victoria est en train de faire, ce n'est qu'un début, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut éduquer les gens sur les biais inconscients. Parce que le fait que ces policiers ciblent particulièrement 9% des Amérindiens qui n'en forment même pas 5% de la population, veut dire exactement qu'il y a un ciblage systématique du système policier, du système de surveillance sur ces individus-là. Pourquoi il y a donc un biais inconscient ou même conscient relativement à ce groupe d'individus? Voilà, c'est ça. Donc ce n'est qu'un début pour moi, ce n'est pas la fin en soi. Il faut éduquer le monde sur cette façon de penser l'autre.
Éduquer, voilà. Éduquer, c'est sans doute un des mots clés, un des mots très importants. Pour éduquer, il faut qu'il y ait une possibilité aussi au dialogue. Est-ce que vous pensez qu'elle est, elle est possible quand on voit par exemple qu'il y a des, j'allais dire, je vais appeler ça très naïvement, des obstacles sémantiques. On voit que le Premier ministre du Québec appelle à une évolution tranquille sur ce sujet. Est-ce que, d'une part, le dialogue est possible, et est-ce que vous pensez que le dialogue dans un cadre apaisé est suffisant, ou est-ce qu'il faut aller vers une forme, j'allais dire, de révolution plus active, d'action plus marquée? Est-ce qu'on est arrivé à un tel point qu'il faut désormais passer à une étape, j'allais dire, sans appeler à une forme de dramaturgie, mais quelque chose qui soit au-delà du dialogue apaisé?
Je pense que le dialogue apaisé, je ne sais pas d'abord ce que ça veut dire. Quand il y a plusieurs centaines d'années, je parle de plusieurs centaines d'années, des groupes d'individus parlent de leurs souffrances et que personne n'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire, dialogue apaisé, dans ces circonstances-là? Qu'est-ce que ça veut dire une évolution tranquille dans des circonstances où les gens vous disent que les chaussures qu'ils portent leur font mal et que ça fait 400-500 ans que ça dure? Non, si vous me posez la question personnellement, et j'ai eu à me prononcer plusieurs fois sur cette question, il faut tourner le bateau de bord pour parler québécois. Quitte à ce que le bateau chavire et que tous ceux qui vont être dans l'eau se relèvent en même temps pour pouvoir nager vers le rivage. C'est l'image que je donnerais. Il faut virer le bateau de bord de manière à ce que nous soyons tous dans l'eau, qu'on puisse être empathique des douleurs des autres, qu'on puisse se relever comme une nation, comme un peuple, et qu'on puisse marcher ensemble. Donc le dialogue apaisé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je pense qu'il est temps d'agir. Il faut profiter de l'occasion actuelle pour agir. Ce n'est pas dans la violence, c'est agir dans la vérité. Écoutez, on a une commission vérité et réconciliation. Il y a ici, relativement au premier peuple de ce pays, qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'à présent? Juste écrit des reconnaissances que nous sommes dans un territoire? Non, il faut aller au-delà de ces, ce que j'appelle, nos frères, pardonnez mon français, lip-singing, ou lip-servicing, ou window presentation, un habillage de fenêtres. Il faut dépasser cela. Il faut aller dans l'action. Il faut évidemment que nous ayons de la représentativité dans toutes les sphères de l'État, dans toutes les sphères des secteurs privés, de manière à ce qu'on inspire nos enfants, tous nos enfants. Il faut évidemment de la représentativité à tous les niveaux. Il faut que les femmes, les hommes, les minorités qui viennent de partout puissent devenir le modèle de leurs enfants. Pour que tous les enfants, pour qu'on vive véritablement dans ce qu'on appelle égalité de chance. Parce que ça aussi, c'est un leurre. Il n'y a pas d'égalité de chance. On n'est pas égaux. Et pour pouvoir créer une égalité de chance pour tout le monde, il faut renverser le bateau. Il faut virer le bord. Donc c'est ça que moi, je pense qu'il faut un courage sur le plan politique, un courage politique. Hier, en Ontario, il y a eu un événement très intéressant. Black North. C'est un individu qui a réuni plusieurs chefs d'entreprise, une centaine, et qui ont juré qu'ils vont changer la façon de faire du business dans leurs entreprises en intégrant plus de minorités à l'intérieur de leurs entreprises, en allant chercher des talents, en allant faire à ce que ces talents-là puissent devenir des modèles de demain. Voilà des actions comme ça qu'il faut faire. Il faut s'engager fermement. Il ne faut pas juste en parler. Il ne faut pas juste que ça reste dans des rapports qui seront quelque part dans des assemblées nationales sans véritable action.
Peut-être une dernière question, elle est sensible. Je vais le poser comme un postulat. Grande partie des Blancs ne sont pas racistes ou ne se prétendent pas racistes. Et aujourd'hui, on a aussi une espèce de contre-feu ou d'effet pervers qui est que beaucoup de Blancs ressentent une forme de culpabilisation par rapport à cette question-là. Comment il faut leur répondre? Peut-être qu'à force de ressentir cette culpabilisation, ces gens-là vont se désintéresser de la question. Ces gens, je le rappelle, sont des soutiens à la cause de l'évolution et vers plus d'harmonie. Comment vous leur répondriez aujourd'hui pour leur dire qu'il ne faut pas justement qu'ils se sentent coupables et qu'ils continuent à rester fidèles au combat?
J'ai deux petites réponses pour votre question. Le silence vous rend complice. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, il ne suffit pas de dire qu'on n'est pas raciste. Cela ne suffit pas. Il faut dire qu'on est contre le racisme. C'est la deuxième réponse. Le silence vous rend complice de ce qui se passe autour de nous. De voir que la police attrape toujours les mêmes gens et qu'on ne parle pas. Le silence nous rend complices quand on ne réagit pas, quand dans nos réunions de famille, on a un tonton, une cousine, une tante, une maman, un frère, une sœur qui dit des choses qui ne sont pas acceptables vis-à-vis d'autres groupes d'individus et on applaudit ou on rit sans rien dire. Le silence nous rend complices de ces choses-là. Deux, comme j'ai dit, si vous dites que la plupart des Blancs ne sont pas racistes, ce que je crois fermement et que c'est la vérité, il faut que ces Blancs disent qu'ils sont contre le racisme, pas qu'ils ne sont pas racistes. Il faut qu'ils disent qu'ils sont contre telle forme de racisme, particulièrement qu'ils sont contre le racisme contre les Amérindiens, ils sont contre l'effet du racisme contre les Noirs, ils sont contre l'effet du racisme contre X, Y, Z individus. Là, ils vont s'engager. Donc, voyez-vous, la position épistémologique ici est différente. Elle demande de l'action. Parce que vous pouvez tourner votre tête et vous dire « moi, je ne suis pas raciste, ça ne me concerne pas ». Mais le fait de le faire vous rend complice. Des injustices qui se passent dans notre pays. Voilà ma réponse, aussi simple que ça.
Aussi simple, mais je pense très importante. Professeur Boulou Ebanda Deberi, merci infiniment pour votre temps.
Ça me fait plaisir et à la prochaine. Continuez votre travail, parce que c'est seulement en parlant que nous allons sortir de ce marasme, de ce problème qui dure depuis des centaines d'années. Des centaines d'années. Voilà.
Eh bien, on continuera de faire notre travail et d'en parler, évidemment. Merci encore d'avoir été avec nous.
Au revoir, à la prochaine.
C'est la fin de notre rendez-vous hebdomadaire, regard sur le Grand Victoria. Vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble des balados sur le site Radio Victoria, le site de notre radio du 107.9 FM. Je vous souhaite, pour ceux qui ont la chance de prendre un congé estival, de passer de très bonnes vacances. Pour tous ceux qui restent, vous pouvez toujours vous consoler en écoutant Radio Victoria, votre radio la plus à l'ouest, qui reste là pour vous durant l'été. Je vous retrouve d'ailleurs la semaine prochaine à midi, mercredi, pour une nouvelle émission de Regard sur le Grand Victoria. À très vite !